Des tirs de mortier ont frappé mardi un quartier chiite de Bagdad, faisant au moins 4 morts et 14 blessés.
Plusieurs actes de violence aveugles ont fait au moins 35 morts samedi dans Bagdad, selon les autorités irakiennes.
Un soldat et un civil irakien ont été tués et 2 personnes blessées lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur une mosquée sunnite à Isran.
Des hommes armés ont attaqué dimanche une mosquée sunnite au sud de Bagdad au lendemain d'un attentat au camion piégé survenu près d'une mosquée chiite du même secteur.
Un tireur en plus commis dans le centre-ville, tandis qu'un soldat irakien est mort dans l'explosion d'une bombe dans le quartier de Yarmouk.
Bien dans un contexte de déchirure, de désintégration de la société irakienne dans son ensemble, mais des communautés.
Il faut bien comprendre que c'est l'effondrement de l'appareil d'État irakien qui permet la guerre civile et non la guerre civile qui a provoqué l'effondrement de l'appareil d'État.
Dans les faits, le nettoyage des quartiers, les déplacements de population, les attaques sectaires vont quand même dans le sens d'une partition de la société.
Une utilisation de la différence religieuse à des fins politiques.
Je crois quand même que le principe déclencheur est effectivement la politique conduite par la coalition.
Ce pays est en train d'être totalement détruit. Il faut se poser la question de savoir à qui profite la destruction de ce pays.
Je pense que je n'aurai bientôt plus d'amis en Irak. Ils sont soit à l'étranger, soit morts.
C'est comme un robinet qui goûte régulièrement. Ceux qui sont juste à côté n'entendent plus que ça. Ceux qui sont plus loin n'entendent rien et ne font plus attention derrière leur poste de télévision. Chaque jour, de nouveaux attentats, de nouveaux jeunes Irakiens transformés en bombes humaines, tuent, sèment la tristesse, consolident la peur et creusent une tranchée sans cesse plus grande entre deux communautés, les chiites et les sunnites. Il ne se passe sans doute plus un jour sans que vous entendiez à la radio ou à la télévision, entre le mot Irak et attentat, quartier chiite par-ci, quartier sunnite par-là. Que se passe-t-il réellement entre ces deux communautés? Pourquoi se déchirent-elles? Et d'abord, quelles sont-elles? Quel est leur passé? Est-ce qu'elles sont en guerre l'une contre l'autre ou on simplifie une fois de plus pour pouvoir faire rentrer une info dans les 3 formats Breaking News? Et les Américains là-dedans? Et l'Iran? Et Al-Qaïda? Et les Irakiens? Oui, les Irakiens dans tout ça. C'est à toutes ces questions que Focus va tenter de vous amener une ébauche de réponses, ceci en 2 podcasts d'une demi-heure chacun. À travers 3 intervenants, Myriam Benrad, doctorante à l'Institut d'études politiques de Paris, où elle achève une thèse consacrée aux problématiques identitaires dans l'Irak de l'après Saddam, Firouzen Ravandi, professeur à l'ULB et auteur de multiples ouvrages sur l'Asie musulmane, enfin Peter Harling, consultant pour l'International Crisis Group, qui a son siège à Bruxelles. Il réside à Damas après avoir résidé longtemps à Bagdad. Il collabore à de nombreuses publications dans des journaux aussi variés que le Financial Times ou le Monde diplomatique. Entre les faits que nous allons vous exposer et puis les analyses de nos spécialistes, vous entendrez les mots, extraits du blog d'une jeune Bagdadi de 25 ans. Ce carnet, appelé « Bagdad is burning », rend compte mois par mois, depuis 4 ans, du basculement de la capitale dans l'horreur. Ces mots seront lus par notre journaliste Myriam Leroy, elle aussi, à 25 ans. Comme d'habitude, nous vous donnons rendez-vous sur notre blog pour des diaporamas et les entretiens dans leur intégralité avec nos intervenants. L'adresse du blog, podcastfocus.lalibreblogs.be. Même si les comparaisons peuvent souvent s'avérer délicates, on pourrait, dans une certaine mesure bien entendu, rapprocher le conflit entre sunnites et chiites à celui qui a opposé protestants et catholiques en Irlande du Nord ou celui plus lointain qui opposa également ces deux confessions dans la France du XVIe siècle. Tout comme protestants et catholiques sont 2 branches de la chrétienté, sunnites et chiites sont 2 branches de l'islam. 2 branches apparues très tôt, dès la mort du prophète Mahomet. Firouzena Avandi.
Le prophète Mohammed serait mort sans laisser de successeur, sans avoir désigné réellement un successeur. Ce qui fait qu'à sa mort, toute une série de groupes qui avaient une influence, que ce soit autour du prophète lui-même ou plus loin, des gens qui étaient influents dans la région où l'islam est né, ont prétendu au pouvoir. Il y avait 4 groupes en particulier, je ne vais pas les désigner les uns après les autres, mais dans ces groupes, il y avait un groupe qui estimait que la descendance du prophète, la succession du prophète, devait venir dans le groupe même qui était de ses descendants de sang. Et donc, il devait rester dans sa famille. Et c'est ce que l'on appelle les légitimistes. Et donc, ce groupe-là, qui prétendait à cette période que le premier successeur du prophète devait être son cousin et son gendre Ali, n'a pas eu de succès. Et donc, c'est de ce groupe-là que est né le chiisme, qui veut dire suivre, et qui va donc être le groupe qui, à la suite de la mort du prophète, estime que c'est ses descendants en ligne directe qui doivent lui succéder, et en premier lieu Ali, son cousin et son gendre.
D'après des gens qui vivent là, des miliciens sont arrivés en milieu de matinée et ont ouvert le feu sur des gens dans la rue et même dans les maisons. Ils ont commencé à tirer les gens de la rue et à vérifier leur carte d'identité pour voir s'ils avaient des noms sunnites ou chiites. Les sunnites étaient emmenés et tués.
Si les chiites estiment que le successeur de Mahomet doit être un de ses descendants, ce n'est pas le cas des sunnites, pour qui le successeur sera le plus méritant.
Un successeur par élection, ce qui en fait correspondait aux traditions tribales et régionales de là où est né l'islam, c'est-à-dire en Arabie.
C'est donc dans cette succession du prophète que réside la différence principale entre les branches chiites et sunnites. Les chiites croient en un imam descendant de sang du prophète. Un imam qui fait le rapport entre le ciel et la terre, et c'est toute la justice de Dieu qui se reflète dans ce contact. Le chiisme se subdivise lui-même en plusieurs branches. La branche majoritaire est celle des duodécimains, c'est celle qui prévaut en Iran. Ceux que l'on appelle imam aujourd'hui chez les chiites sont-ils encore les descendants directs du prophète ? Madame Nahavandi explique l'évolution du chiisme dans le cas des duodécimains à partir du premier imam, Ali, après la mort de Mahomet.
Il y a eu le premier donc imam, puisque pour les chiites on les appelle les imams, c'est Ali, et puis il y en a eu encore 11 après lui, dont le dernier est occulté. En fait, c'est un petit peu comme pour la mort du prophète, à chaque fois qu'un imam disparaissait, et en général ils ont tous disparu de mort violente, assassinés, en tout cas de manière assez violente à chaque fois, il y avait une dispute pour la succession. Ce qui fait que à l'arrivée du 12e d'entre eux, celui que l'on appelle pour l'Égypte iranien l'imam caché, il y a eu une doctrine de l'occultation qui s'est mise en place. Et donc le 12e, lui, n'est pas mort, mais est occulté. Et donc les chiites iraniens attendent son arrivée. Et donc, ce qui se passe, c'est que comme dans la doctrine chiite, le ciel ne peut pas rester sans contact avec la terre, et les imams, c'est ça la spécificité du chiisme. Les imams sont ceux qui font le rapport entre le ciel et la terre, et c'est toute la justice de Dieu qui est reflétée dans ce contact. Ce sont le clergé, les membres du clergé, qui sont venus prendre la place des imams. D'où le fait que vous trouvez dans le chiisme un clergé que vous n'avez pas chez les sunnites, et qui sont censés remplacer les imams dans certaines de leurs fonctions. Parce qu'en fait, les imams descendants du prophète sont considérés par les chiites comme infaillibles, alors que les membres du clergé ne sont pas infaillibles. Ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a des personnes qui sont des personnes savantes, qui sont des personnes qui connaissent le chiisme, mais qui ne sont pas nécessairement des descendants en ligne directe du prophète. Mmh. Et d'ailleurs, on les différencie très bien dans leurs vêtements, puisque les descendants du prophète en Iran sont ceux qui portent le turban noir. C'est le signe du deuil. Et c'est le signe de la descendance du prophète. Et ceux qui, tous les mollahs qui portent des turbans blancs, c'est ceux qui n'appartiennent pas à la famille du prophète.
Le terme mollah désigne donc un membre du clergé chiite. Mais revenons au terme imam. Pour répondre à la question que nous nous posions, certains dignitaires religieux qui aujourd'hui se font appeler imam chez les chiites ne sont pas des descendants de Mahomet.
C'est seulement une appellation que l'on ne donne qu'à certains qui sont les descendants directs. Par exemple, appeler l'ayatollah Khomeini imam est une utilisation abusive, dans l'acception chiite.
À l'inverse, un descendant du prophète n'est pas nécessairement un imam.
Celui qui aujourd'hui est descendant du prophète, ce n'est qu'un lien familial. Il n'a pas nécessairement une fonction politique ou religieuse. Hein.
Madame Nahavandi l'a expliqué, chez les chiites, il y a donc un clergé, un peu comme chez les catholiques.
Aujourd'hui, les membres du clergé qui sont au pouvoir, ou qui en tout cas détiennent un pouvoir spirituel, sont des personnes qui sont un petit peu désignées comme dans la hiérarchie effectivement catholique, c'est-à-dire qu'ils doivent passer par différents enseignements, et donc il y a une hiérarchie selon le degré de connaissance que vous avez. Et alors, pour celui qui, disons, si je veux faire la comparaison, serait le pape, celui qui a la place la plus élevée dans cette hiérarchie, il est désigné par ses pairs.
Cette sorte de pape version chiite est élu par un clergé que l'on pourrait qualifier d'international.
Il s'appelle l'ayatollah suprême, qui peut être, ça a été longtemps le cas, on peut en avoir un seul ou plusieurs, et il peut être en Irak, comme il peut être en Iran, comme il peut être au Liban. Là, c'est un petit peu selon les circonstances.
Dans la République islamique d'Iran est apparu un autre type de leader chiite.
Le système iranien maintenant est un petit peu différent, parce que nous avons une superposition de systèmes, puisque dans le chiisme, il y a ceux qui sont désignés comme, disons, les savants les plus élevés, ceux que l'on appelle Ayatollah Osma, le plus grand des ayatollahs. Et puis en Iran, on a inventé une nouvelle catégorie qui est le guide. Et ça n'existe qu'en Iran.
L'Iran a aussi pour spécificité de mêler étroitement pouvoir politique et pouvoir religieux. Il ne faut cependant pas penser que de tout temps, les chiites ont mêlé ces deux pouvoirs. Aujourd'hui encore, l'ensemble de la communauté chiite est loin de penser qu'il faille lier religion et politique.
Au premier jour de l'islam, avec les premiers imams, ces premiers imams, comme je vous l'ai dit, ont tous été persécutés et presque tous assassinés. Ce qui fait que dans la tradition chiite, dans les premiers jours du chiisme, ces imams n'ont pas exercé la direction politique. Ils étaient presque toujours cachés, donc c'était plutôt de direction spirituelle. Et donc, mais par ailleurs, les chiites ont aussi considéré que ceux qui avaient pris le pouvoir politique étaient des usurpateurs, parce qu'ils estimaient que c'était parmi eux que devaient être les descendants, enfin les successeurs du prophète. Alors ça a donné lieu à deux interprétations du chiisme. Il y a une interprétation quiétiste, qui est celle qui a prévalu depuis le début, qui veut que les chefs religieux restent des chefs religieux et que le chiisme, et d'ailleurs l'islam de manière générale, ne se mêle pas de politique, et qui est plus une tendance philosophique, spirituelle. Et puis, il y a quelques-uns qui, de temps en temps, prétendent qu'il faut aussi le pouvoir politique. Alors, nous sommes aujourd'hui dans cette prétention-là. C'est une question d'interprétation. Se dire que l'Iran ne respecte pas le chiisme, c'est vrai, c'est faux, quoi. C'est vraiment une question d'interprétation.
Chiites et sunnites ont en commun de nombreux rites et fêtes. Et le socle de croyances fondé sur le Coran est le même. Il y a cependant des différences. Les chiites se distinguent par exemple par un culte du martyr, né des morts violentes de leurs premiers imams.
La culture du martyr est liée au destin tragique de deux des imams. Le premier qui est Ali, et le deuxième symbole du martyr, c'est l'imam Hussein, qui était l'un des fils de Ali. Alors ces deux imams ont été assassinés dans des conditions atroces, et il se fait effectivement que les chiites pleurent tous les ans, commémorent leur mort, et parfois dans des situations assez tragiques, dans des circonstances se flagellant, se poignardant, en tout cas parfois de manière très violente. Mais donc effectivement, on s'est développé dans le chiisme un culte du martyr et de l'autopunition, disons.
Les chiites ne constituent pas plus de 10% des musulmans. Ils sont à peu près 130 millions dans une zone s'étendant du Liban au Pakistan. Ils sont majoritaires en Iran, en Irak, à Bahreïn, en Azerbaïdjan, au Liban. Les sunnites sont largement majoritaires dans le monde arabo-musulman, regroupant environ 4/5 des croyants. On l'a dit, les sunnites se sont différenciés des chiites en estimant que le successeur de Mahomet ne devait pas être nécessairement de son sang. Chez les sunnites, l'imam n'est pas un descendant du prophète, l'imam désigne simplement celui qui guide la prière. Il n'y a pas de clergé, proprement dit, non plus chez les sunnites. Ceux qui exercent le même type de fonction que les mollahs chiites sont appelés ouléma. Le sunnisme dérive du mot sunna, qui désigne la tradition orale qui rapporte les paroles et actions du prophète. Le sunnisme s'appuie sur quatre grandes écoles.
Dans le sunnisme, ce n'est pas la tradition des imams et les écrits des imams qui prévalent, mais effectivement, du point de vue juridique uniquement, hein, pas du point de vue, mais du point de vue juridique, il y a quatre grandes écoles d'interprétation des textes et des écrits et des dires du prophète. Et là, c'est une différence importante puisque les chiites ne suivent pas ces quatre écoles.
Quelles sont les différences entre ces écoles ? On continue d'écouter Madame Nahavandi.
Ces écoles, bon, sur l'essentiel, ne sont pas très différentes sur les rites, sur les croyances. Ce qui les différencie, c'est la place qu'ils donnent dans l'interprétation du texte à l'opinion, au consensus ou au suivi strict de ce qui a été dit.
Ces quatre écoles sont l'école hanafite, la malékite, l'école chaféiste et l'école hanbalite qui a donné naissance au wahhabisme. Celui-ci se confond avec le salafisme qui prône une forme rigoriste de l'islam. C'est la doctrine la plus répandue parmi les groupes islamistes. Myriam Benrad.
Les salafistes sont tout simplement des islamistes se réclamant des salafs, hein, des compagnons du prophète, des premiers compagnons du prophète, et encourageant une application littéraliste des principes de l'islam. Ce même salafisme quiétiste a fusionné avec la doctrine djihadiste pour former aujourd'hui ce qu'on appelle le salafisme djihadisme, et qui est donc la forme, en tout cas, doctrinale, idéologique prépondérante en Irak. Pas seulement en Irak, mais au sein d'une large partie de la jeunesse.
On sait que dans le chiisme, pouvoirs politiques et religieux peuvent se mêler, comme c'est le cas en Iran. Les sunnites mélangent-ils aussi religion et politique ? On écoute Madame Nahavandi.
La grande tradition est une séparation, de fait. Il y a eu, dans l'histoire du sunnisme, également des exceptions, des petits mouvements qui ont prétendu à la confusion du politique et du religieux. Mais donc, dans l'histoire, disons, des pays musulmans, dans l'histoire de l'expansion de l'islam, le politique et le religieux ont été effectivement séparés.
Concernant justice et religion, il y a bien sûr la charia, qui est un ensemble de règles de conduite applicables aux musulmans. Mais il ne faut pas s'y tromper. Aujourd'hui, l'islam ne dirige pas tous les textes juridiques dans les pays musulmans.
Il y a eu traditionnellement une justice qui se prévalait de l'islam. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du 19e siècle, on commence à réfléchir à une justice civile. Et donc les pays musulmans vont tous mettre en place une justice, un système, un code civil qui ne se réfère pas nécessairement à la charia, sauf en général en ce qui concerne le code du statut personnel et donc en fait tout ce qui est en rapport avec la famille et la femme qui dans une majorité de pays musulmans se réfère encore à l'islam. Pour tout le reste, maintenant, il y a des codes séparés.
Chiites et sunnites se déchirent aujourd'hui en Irak. Les deux communautés ont-elles de tout temps été en conflit dans le monde musulman au Moyen-Orient ? Comment s'est déroulée la coexistence entre chiites et sunnites depuis la naissance de ces deux branches jusqu'à aujourd'hui ? Madame Nahavandi.
La coexistence entre les sunnites et les chiites ne s'est pas nécessairement bien passée parce que les chiites mettaient en cause le pouvoir des dirigeants sunnites et donc les premiers ont été persécutés. Par la suite, selon les périodes, il y a une coexistence pacifique, mais dire également qu'il y a une lutte millénaire entre les sunnites et les chiites, comme le prétendent beaucoup pour expliquer l'histoire actuelle, ce n'est pas vrai, parce qu'ils vivaient de manière séparée également.
J'entends toujours ces Irakiens pour la guerre interviewés à la télévision dans les capitales étrangères. Ils ne peuvent apparaître que sur les télévisions des capitales d'ailleurs, parce que je défie quiconque d'être publiquement pour la guerre en Irak. Ils refusent de croire que leur parti politique sectaire et religieux alimente le conflit entre chiites et sunnites. Ils refusent de reconnaître que la situation est la conséquence directe de la guerre et de l'occupation. Ils ne cessent de parler de l'histoire d'Irak et comment sunnites et chiites ont toujours été en conflit. Je déteste ça. Je déteste qu'une poignée d'expatriés qui n'ont plus été dans le pays depuis des décennies prétendent en savoir plus que les gens qui y vivent actuellement.
Peut-on parler d'une culture, d'une mentalité propre à un chiite ou à un sunnite? Un peu comme dans le cas des Flamands et des Wallons en Belgique. Firouzzena Avandi.
Je ne crois pas que l'on puisse parler du tout de mentalité chiite ou de mentalité sunnite. S'ils se différencient de temps en temps, c'est parce que les chiites et les sunnites n'habitent pas les mêmes pays. À côté de la tradition religieuse, à côté de la commémoration, par exemple, des martyrs chez les uns et pas chez les autres, les différences viennent de leur appartenance en termes de pays. Ce qui fait que, par exemple, si on veut comparer les chiites iraniens et les chiites irakiens, pour les chiites irakiens, être irakien est plus important que être chiite.
Pourtant, aujourd'hui en Irak, chiites et sunnites se déchirent. Pourquoi ? Avant toute chose, il faut savoir que l'Irak est probablement le pays où les communautés chiites et sunnites sont le plus en contact. Mais y a-t-il vraiment mixité des populations ? Les chiites vivent principalement au sud de l'Irak, les sunnites au nord. Une répartition qui se consolide aujourd'hui avec les violences. Myriam Benrad.
Cette répartition territoriale tend aujourd'hui à être consacrée, à s'imposer à travers des mouvements importants de déplacés à l'intérieur des frontières en raison des violences. Mais avant la guerre, il faut quand même préciser que cette répartition, qu'on pouvait trouver des poches tout de même de mixité dans ces régions.
Mais pour Myriam Benrad, ces poches de mixité ne doivent pas être l'arbre qui cache la forêt. On l'écoute.
Mais vous allez si vous vous rendez dans le sud du pays ou dans le nord du pays, la mixité, à part quelques villes comme Basra, Kirkouk, Mossoul, au-delà de ça, il y a une certaine forme d'uniformité tout de même ethnique et confessionnelle. Hein.
La mixité, on la trouvait et on la trouve surtout à Bagdad, la capitale ouverte et cosmopolite, où prévaut une situation fort différente du reste du pays. Un peu finalement comme Bruxelles avec Flamand et Wallon. Myriam Benrad.
Il est vrai qu'on peut parler de mixité à Bagdad. Enfin, on peut lire dans de nombreux médias des choses portant sur la mixité des familles, etc. Alors, c'est vrai. Bon, la mixité, effectivement, a pu exister dans des proportions qui sont quand même demeurées restreintes. Aujourd'hui, je crois que le taux de mariage mixte est à zéro. Hein, donc on ne peut plus parler de ça, ce phénomène aujourd'hui.
Je me rappelle Bagdad, avant la guerre. Une personne pouvait vivre n'importe où. Nous ne savions pas ce que nos voisins étaient, nous nous en moquions. Personne ne demandait à propos de religion ou de secte. Personne ne s'intéressait à ce sujet trivial. Es-tu sunnite ou chiite ? Vous ne posiez ce genre de questions que si vous étiez grossier et arriéré. Aujourd'hui, nos vies tournent autour de ça. Nos existences ne dépendent que de cacher ou mettre en évidence notre confession chiite ou sunnite, dépendant du groupe d'hommes masqués qui effectue un raid dans votre quartier au milieu de la nuit.
Cette mixité chiite-sunnite à Bagdad est en train de disparaître sous la pression des violences. Myriam Benrad et Peter Harling.
Bagdad, comme je l'ai dit, a été effectivement le modèle d'une certaine mixité sociale irakienne. Mais la tendance aujourd'hui est à un phénomène de décomposition, recomposition territoriale, des quartiers, assez impressionnant d'ailleurs, qui est donc le fait, bien entendu, de l'action en fait, des milices, notamment à l'encontre des populations civiles. Donc on peut effectivement aujourd'hui radicaliser, je dirais, la ligne de fracture entre la rive gauche de la capitale à dominante chiite et une rive droite à dominante sunnite. Alors, il y a effectivement encore certaines enclaves qui demeurent.
Le processus de décantation sectaire de Bagdad est achevé, à quelques exceptions près. Par contre, il ne faut pas faut éviter de caricaturer cette géographie, et puis encore de large larges enclaves.
Début mars, Leïla, une Irakienne active dans les organisations de défense des droits des femmes, indiquait qu'il y avait eu dans la province sunnite d'Anbar 500 divorces forcés en un mois à peine, tout simplement parce que mari et femme appartenaient à des groupes religieux différents.
À environ 2 heures de l'après-midi, nous avons reçu de terribles nouvelles. Nous avons perdu un bon ami dans les tueries. C'était un ingénieur civil de 26 ans qui travaillait avec un groupe d'amis dans un bureau de consultance à Jadria. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a une semaine. Il était passé chez nous pour nous dire que sa sœur avait été engagée. Il avait apporté avec lui des images du dernier projet sur lequel il travaillait, le bâtiment d'une école à moitié détruit à l'extérieur de Bagdad. Il quittait en général sa maison vers 7 heures du matin pour éviter le trafic du matin et la chaleur. Hier, il avait décidé de rester chez lui parce qu'il avait promis à sa mère qu'il ferait venir à Abu Kamal pour réparer le générateur d'électricité qui avait rendu l'âme la nuit passée. Ses parents ont dit qu'il quittait le quartier quand une attaque s'est produite. Il a reçu 2 balles dans la tête. Son frère n'a pu l'identifier que parce qu'il a reconnu le t-shirt couvert de sang qu'il portait. Je n'ai pas encore vu sa famille. Je ne suis pas sûre que j'ai le courage ou l'énergie d'apporter mes condoléances. J'ai l'impression d'avoir donné les mots traditionnels de condoléances des milliers de fois ces derniers mois. Bakia, Iba, Ayaktou, Makir, Ilazan, ou que ce soit vos dernières larmes. Ce sont des mots vides, car au moment où nous les prononçons, nous savons que dans l'Irak d'aujourd'hui, les larmes, aussi grandes soient-elles, ne seront pas les dernières.
Chiites et sunnites, deux branches de l'islam nées presque en même temps que cette religion, ont coexisté plus ou moins pacifiquement, si ce n'est au début de leur existence. En Irak cependant, là où ces deux confessions se trouvent particulièrement mêlées, les violences, puis une guerre civile vont éclater à la suite de la chute du régime de Saddam Hussein et l'occupation des forces de la coalition, États-Unis en tête. Pourquoi ? Comment en est-on arrivé au déchaînement de la violence actuelle, à la guerre du tous contre tous, à la destruction actuelle de l'Irak ? Ne manquez pas la seconde partie de Focus, disponible d'ici une semaine.